À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, en ce lendemain de Noël, nous allons assister à la naissance du Christ dans une famille. Oui, le Christ naît au cœur d'un père, d'une mère, de leurs deux enfants, un garçon et une fille, qui passent de l'incroyance à la sainteté. C'est assez extraordinaire. C'est la famille de Pierre Van der Meer, ou Van der Meer de Valkeren, un Hollandais né à Utrecht en 1880. Et voici ce que cet homme, ce mari, peut écrire de sa femme. Aujourd'hui, je consacre l'émission à sa femme, Christine de Villeneuve, une Française, Christine Van der Meer de Valkeren, qui est morte en 1954, à 73 ans. Et c'est ce qu'il écrit de sa femme quand leur union, leur mariage, est une union véritable. Une union qui est construite sur le roc solide de l'amour chrétien. Pierre Van der Meer de Valkeren, comme je vous ai dit, est né en 1880, est devenu veuf à 73 ans et il se fait en l'espace de 2 semaines moine bénédictin en Hollande à l'abbaye Saint-Paul d'Osterhout, qui est de la même congrégation que Saint-Benoît-du-Lac. Il devient prêtre. Il parle de sa femme décédée comme une sainte le 26 décembre 1954. C'est l'anniversaire du décès de sa femme, il y a moins de 50 ans. Faut pas confondre avec Maxence Van der Meer, un romancier français qui est mort en 1951. Ça n'a rien à voir. Voici ce qu'écrit Pierre Van der Meer de Valkeren. Il dit bien que je ne sois plus tout à fait le même qu'autrefois, moine depuis 6 ans. Il écrit ça, voyez-vous, il a près de 80 ans. Et prêtre depuis 3 mois. Depuis 3 ans. Il était prêtre depuis 3 ans. Ils l'ont ordonné en dedans de 3 ans, c'est ça. Alors il dit, mon cœur est toujours le même cœur d'homme, plus humain. Même en quelque sorte au contact de Dieu fait homme que je tiens dans mes mains chaque jour. Il ajoute, puisant dans ce cœur, je voudrais à présent vous dire quelque chose de Christine, de moi-même et de nos enfants, en particulier de Pieterk. Pieterk s'est fait moine bénédictin. Et vous dire ce que fut notre vie et tout ce que nous avons vécu avec une surabondance qui me comble, qui parfois me déconcerte, mais que je m'efforce d'accepter aussi simplement que possible et avec toute l'ardeur de mon être. Il raconte donc que je me souviens de ma rencontre avec Christine comme de l'événement décisif de mon existence. Et éternellement, il restera devant moi, vivant en moi. L'amour se tenait soudain devant moi sous l'aspect d'une jeune fille blonde dont les yeux reflétaient l'âme limpide. Nous nous sommes reconnus. Je fus projeté dans un autre monde. Un tel amour devait nécessairement aboutir à Dieu. Et c'est bien ce qui arriva. Par le fait précisément que, tous deux, nous étions saisis par le merveilleux mystère de l'amour, par le mystère du mariage, et plus tard, par le mystère de la naissance, de l'enfant attendu. Dieu s'est servi de notre premier enfant, de Pieterk, petit païen, tout comme moi, pour s'emparer de nous trois, et plus tard prendre possession définitivement de notre famille entière, y compris notre fille. De ces années où le père Pieterk, comme je vous ai dit, il est devenu le père Pieterk, bénédictin, depuis les années où Pieterk était enfant, où il jouait et apprenait auprès de sa mère à lire et à écrire, je pourrais parler interminablement. Mais Dieu était absent. Et écoutez bien ça. Oh, nous avons vécu, Christine et moi, des heures d'angoisse extrême, lorsque nous pensions que l'absurdité pouvait constituer le seul fond possible de l'existence. Mais notre amour, que deviendrait-il alors? Et l'enfant? Il fallait bien qu'il y ait un sens à tout cela. Une indication? Une direction vers quelque chose? La torture de ces problèmes pour lesquels nous n'avions pas de solution ne nous lâchait plus. J'ai décrit dans Journal d'un converti, une de ses heures de déréliction et de désespoir. Il a écrit ce journal d'un converti en 1921 en néerlandais, en hollandais, et ça a été traduit par la suite dans toutes sortes de langues, ça a été un best-seller. Moi, j'ai l'édition de Déclic de Brouwer en 1962. C'est possible que ce soit encore dans les librairies. Journal d'un converti de Pierre van der Meer de Valkern, chez Déclic de Brouwer. Il ajoute donc, et combien nombreux ne sont-ils pas aujourd'hui, ceux qui éprouvent la même angoisse métaphysique, et qui concluent dès lors, comme certains existentialistes, à l'absurdité absolue de l'univers, et à l'absence totale d'un but dans le monde qui ne serait qu'un jeu de forces arbitraires. De ce désespoir et de ce refus de toute noblesse, j'ai été préservé grâce à la noblesse de Christine. Si elle n'avait pas toujours été présente à mes côtés avec son grand amour, ses yeux purs, son cœur attentif, où serais-je à présent? Christine était née dans une famille catholique. Sa famille adhérait au Parti libéral, cependant. Elle n'était pas athée, mais anticléricale, cette famille. Mon beau-père était un homme droit et sincère, d'une bonté très grande, et pourvu d'un sens très, très élevé de la justice. Mais l'Église était inexistante pour lui. Il priait à sa manière. La petite Christine, naturellement attirée par la beauté, aimait l'Église. Elle avait été baptisée et à l'âge de 12 ans, elle avait fait sa première communion avec une ferveur toute enfantine, après une retraite faite au couvent de Cherkpik. Ainsi qu'il était de mise, en ce temps-là, chez les gens bien, alors que les parents et enfants adultes ne mettaient pas plus les pieds à l'Église. Ça ressemble aujourd'hui ici. Et cette brève retraite et sa première communion avaient profondément impressionné Christine et elle nourrissait en elle le désir de devenir un jour religieuse. Si large d'esprit et cultivé que fussent ses parents, ceux-ci jugeaient exagéré tout ce qui sortait plus ou moins de l'ordinaire. Écoutez bien, c'est important. « Or, c'est là, écrit Don Pierre van der Meer de Valkeren, c'est là une terrible entrave en même temps qu'une source d'agitation pour des jeunes en qui la vie s'éveille, avec tout ce que cela comporte d'étonnement face à la nature, face aux hommes, face au mystère si impressionnant de la vie, de l'infini mouvement de l'esprit et de la matière. » Et c'est ainsi qu'après quelques années, la foi de Christine s'effrita. Pour apaiser sa faim de beauté et de noblesse, elle a jeté son dévolu sur le monde de l'art et de la poésie. Mais cependant, ce monde merveilleux n'arrivait pas à combler son être le plus profond. Elle pensait avec tristesse à la misérable existence de tant d'hommes et de tant de femmes, à ceux que la misère et la souffrance écrasaient. Aussi, Dieu étant devenu le grand inconnu, elle a cru ne pouvoir mieux faire que de s'affilier au Parti socialiste. La splendeur terrestre et l'intolérable souffrance des hommes l'accablaient. Christine se perfectionna dans le dessin et la peinture sous le contrôle d'un professeur dont la réputation à Bruxelles était grande à cette époque. Christine de Villeneuve a continué à dessiner toute sa vie. Et de nombreuses personnes qui nous ont rendu visite durant plus de 50 ans de notre vie commune, il existe encore des portraits dessinés par elle et d'une facture remarquable. Un mariage qui a duré 50 ans. Je rencontrais, dit-il, Christine chez nous à la maison. Elle était l'amie de ma sœur aînée. Je la voyais également à certains cours de l'Université Nouvelle, institut international où écrivains, maîtres réputés et imbus d'idées révolutionnaires enseignaient le marxisme, le matérialisme historique, ainsi que la littérature mondiale. Mais c'est surtout à la maison du peuple de Bruxelles que nous avons appris à nous connaître, la maison du peuple, la maison des marxistes. Chaque soir, nous réformions la société pour en faire un paradis de justice et de fraternité, et pour instaurer ce paradis de camaraderie humaine, nous étions prêts à élever les barricades de la révolution. Christine avait totalement perdu la foi. La foi était morte en elle. Mais miraculeusement, la noblesse de sa nature n'a pas été atteinte. Dieu voulait se servir d'elle pour se servir de moi. Il écrit ensuite, un peu plus loin, une renégate et un païen, c'est eux, ça, ce couple, qui ont exclu Dieu de leur pensée, qui ont rejeté et renié toute religion, surtout celle de l'Église catholique. Puis pose cette belle question, comprenez-vous quelque chose à la patience infinie de Dieu à l'égard de tels êtres? La réponse à cette question Pierre van der Meer de Valkeren nous la donne en trois phrases claires. Écoutez bien, première phrase. En tout homme se cache le mystère de Dieu. Sa deuxième phrase, c'est « Dieu s'adapte avec amour et respect aux dispositions naturelles de l'homme. » Et enfin, la troisième réponse, « Dieu nous a donné l'un à l'autre pour que l'un et l'autre, l'un par l'autre, nous le redécouvrions. » C'est ça le mariage. Alors, il continue à s'expliquer, c'est superbe en ce lendemain de Noël, écoutez bien. « Nous ne pensions pas, ni elle ni moi, cela ne nous venait même pas à l'esprit, qu'il y a quelqu'un, le Verbe incarné, qui nous dit « Je suis la vie, je suis l'amour ». Il est absolument certain que nous aurions pu, tous les deux, nous égarer bien plus loin encore, nous éloigner toujours davantage de notre destinée, sombrer dans le vide absolu. Je connaissais, il est vrai, les belles, les vieilles églises de Bruxelles, de Bruges, de Gand, de toute la Flandre, ainsi que les cathédrales de France, et je les admirais avec transport, mais je ne voyais en elles que le symbole d'une vie communautaire humaine, terrestre, puis aussi le vestige artistique d'un rêve, beau sans doute, mais irrémédiablement perdu. Or, j'étais un incrédule, sans aucune religion, bien que l'idée de la mort, l'idée du mal, de la souffrance, de l'universelle absurdité, martyrisa nos cœurs. J'admirais Nietzsche, en même temps que François d'Assise. Leur extrémisme m'avait saisi, et je ne pouvais ni ne voulais choisir. Et nous revenons maintenant à Pierre van der Meer de Valkeren, qui dans son ouvrage « Rencontre », qui est paru après avoir publié « Dieu et les hommes », qui a été traduit et adapté par Louis van den Bosch, et il avait publié auparavant « Le paradis blanc » avec une introduction de Jacques Maritain, qui était un de ses grands amis, et le journal d'un converti dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire qu'il l'avait traduit du néerlandais en français lui-même, et il y avait une introduction de Léon Blois. Dans son incroyance, Pierre van der Meer de Valkeren écrivait des choses absolument étonnantes. Même une œuvre, « La quête du bonheur »,« Jagd nach Glück », qui se terminait avec un autre père. Mais dans un récit, il a exprimé son inquiétude, l'inquiétude de sa femme aussi, leur angoisse métaphysique. Il dit « J'ai écrit une nouvelle, l'histoire d'un prêtre qui, las de paroles, voulait accomplir un acte libérateur et dans un état d'hypertension nerveuse proche de la démence, seul des déments pouvait incarner mon angoisse mortelle, dit-il, le prêtre transforme l'autel où il vient de célébrer la messe en un bûcher où il s'offre lui-même en holocauste. » Ce récit date de 1906, j'en cite un passage. Alors écoutez bien, ce récit, c'est absolument déchirant. N'oubliez pas, c'est écrit par un incroyant. Je vous le lis. C'est pas très long. C'est terrible, mais c'est très beau. C'est la fin de la messe, ite missa est. Et voici soudain qu'éclate la folie. Le prêtre arrache un cierge d'un des candélabres de l'autel, approche la flamme du bord inférieur de l'ornement qu'il porte. Et tandis que l'étoffe s'enflamme rapidement, il se met à crier d'une voix inhumaine, « L'impuissance de la parole !» Immobile de stupeur, la foule regarde l'immense torche debout sur l'autel et voit deux bras qui gesticulent, battent l'air, se meuvent comme les ailes d'un moulin en flamme pour prendre chaque fois, pendant un court instant, l'attitude du crucifié. Du centre du brasier, la voix étrange continue son monologue. L'impuissance de la parole. Et j'ai parlé, j'ai essayé, par la violence de mon appel, de réveiller tous ces cœurs assoupis. Mais ils ont continué à dormir. J'ai crié tous les jours pour que les hommes se convertissent et essaient de refléter l'image de la bonté de Dieu. Aimez votre prochain comme vous-même. Oh, amour, amour, aimez-vous les uns les autres. Que la bonté prenne feu dans vos cœurs. Le feu purifie, rend l'innocence. Tous vos péchés se consument avec moi. Oh, impuissance de la parole. La voix hurle encore dans une fièvre qui atteint le paroxysme. J'ai erré partout, j'ai cherché, j'ai voulu apporter du secours, mais je n'apportais que des mots. Un acte, un seul acte pour arracher les hommes à leur médiocrité terrible et satisfaite, qui les force à réfléchir. Ce n'est pas par orgueil, ô mon Dieu, que j'accomplis cet acte pour réveiller les hommes. Et tandis qu'il meurt, il murmure encore, impuissance de la parole. Pierre van der Meer écrit aussi, un peu plus loin, « Je ne pouvais cesser de poser la question du mystère de l'homme et d'y chercher une réponse. Quel peut bien être le sens de la bonté, de l'amour, de la souffrance, du mal, de la mort et de la naissance dans un cosmos matériel dont le spirituel serait exclu? Comment l'homme pourrait-il vivre sans croire que quelque chose d'éternel existe ?» Dieu, d'ailleurs, ne nous lâchait pas. Il nous a amenés en Italie. Nous avons passé, Christine et moi, en Italie, plusieurs mois à visiter tout ce qui en valait la peine, demeurant des matinées entières dans les petites et grandes églises de Florence, de Sienne, d'Assise, de Rome. Maintes fois, nous restions à écouter et à regarder pendant que se déroulaient les offices liturgiques. Peut-être commencions-nous déjà à comprendre, plus ou moins, et sans nous en rendre compte tout à fait, que ces magnifiques églises anciennes ne recevaient en réalité leur achèvement et leur vrai sens que grâce à ce jeu liturgique de leur cérémonie. En Italie, nous avions été frappés également de l'intérêt de notre petit garçon de 5 ans, Peterke. Ce qu'il manifestait à l'occasion de ses solennités. Il regardait de ses grands yeux d'enfant tout ce qui se passait sur l'autel et autour de l'autel, et c'est ainsi qu'il assistait avec nous à une messe pontificale célébrée à Saint-Pierre de Rome par le futur Saint-Pie X. Une après-midi, peu après notre retour, notre fils préparait sa leçon assis près de Christine. Tout à coup, il s'est tourné vers sa mère et dit « Je ne vous comprends pas, maman et papa. En Italie, nous entrions tous les jours dans une église. J'ai vu là tant de belles choses. J'ai trouvé ça merveilleux. Et ici, à Bruxelles, nous n'y entrons jamais. Pourquoi pas? Je serais si content, maman. » C'est alors que Christine, incroyante au fond, a eu cette inspiration. « Ne serait-ce pas bon que je lui apprenne à prier? Je dois connaître encore le Notre Père et le Je vous salue, Marie. » Et peu après, chaque soir, avant d'aller dormir, Peterke rappelait à sa maman qu'ils devaient prier ensemble. Étrange prière d'un enfant qui n'avait pas reçu le baptême, d'un petit païen qui n'avait pas 6 ans, et d'une jeune mère qui s'était détournée de Dieu et de l'Église et qui maintenant se mettait à genoux pour réciter ses prières par amour pour son petit. Et le soir, quand nous étions seuls, je faisais lecture de nombreux extraits de Tolstoï, de Dostoïevski, de Claudel et des livres de Léon Blois. Et chaque fois, ce Léon Blois, ce chrétien profondément convaincu, ce catholique vrai, nous semblait là comme une présence dans notre vie. La vision profonde sur le sens de la vie, sur le sens et le mouvement de l'univers entier, cette tendresse et cette ferveur, cet amour de Dieu et des hommes, cette générosité absolue, cet abandon et cette imprécation, cette simplicité, cette splendeur, oh, cette foi et cette vie dans la foi, la souffrance et le sens qu'il lui donne, l'immense communion de tous les hommes avec Dieu et les anges, la croix du Christ et cet amour, cette humilité d'esprit, cette simplicité absolue dans la foi, tout cela, nous le trouvions exprimé chez Léon Blois en une langue vivante et vécue dans l'expérience quotidienne de l'existence humaine. Était-ce là le catholicisme, l'Évangile, l'Église, le Christ, Dieu? Tout cet univers aux dimensions humano-divines dont Léon Blois est rempli et parle constamment. Nous avions toujours considéré les mesquineries des croyants, leur piété douceâtre, leur politique étrange, comme des choses qui traduisent exactement la situation qui était l'expression véritable du christianisme de l'Église catholique. Toute cette énorme erreur, Blois la rectifiait selon sa manière originale et très peu tendre. La dernière phrase de La femme pauvre, l'un des livres principaux de Léon Blois, la dernière phrase de La femme pauvre, qui était un ouvrage que ma mère aimait beaucoup relire, la dernière phrase resta accrochée en nous, résonna chaque fois en nous comme une voix qui appelle, il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints. La beauté pleine de sens de la liturgie sollicita, elle aussi, notre réflexion, la messe surtout. Cette action mystérieuse qui se passe sur l'autel où par les paroles du Christ lui-même, le pain et le vin changent de substance et deviennent le corps et le sang du Rédempteur. Incompréhensible, inexplicable merveille, mais qui par la foi n'en est pas moins une réalité, donnant à toute la création et à la vie humaine leur sens et leur direction. Mais tout cela nous paraissait encore bien irréel. Notre petit garçon, au contraire, avait l'air de comprendre. Et c'est dans cet état d'esprit que nous sommes allés trouver Léon Blois. C'est peut-être une faiblesse de l'homme moderne qui vit si intensément par les sens. Il veut voir incarner l'étrange, l'obscur mystère de la foi catholique. Il veut voir incarner le christianisme dans un être vivant, un être qui est éprouvé dans son corps et dans son âme et à travers son existence, ce qu'est l'énigme de Dieu et l'énigme encore plus grande d'une création finie par un Dieu infini. Et écoutez bien ce qu'écrit Pierre van der Meer de Walcheren sur sa rencontre avec Léon Blois. C'est simple et lumineux. Une fois franchi le seuil des Blois, de la famille des Blois, lui et sa femme, tout ce que nous connaissions en ce monde, toute la richesse de la vie, l'existence matérielle, les hommes, les choses, tout cela devenait irréel. Tout cela nous paraissait parfaitement artificiel. La maison de Blois était située au milieu d'un jardin abandonné, juste derrière la basilique de Montmartre. Nous n'avons jamais oublié Christine, Pieterke et moi-même. Ce moment inattendu où la cloche, la savoyarde du Sacré-Cœur se mit à sonner 3 coups très graves et reprit 3 fois. Mais nous vîmes les Blois se lever, faire le signe de la croix et réciter l'Angélus. Pieterke fixait sur eux un regard avide. Christine et moi avions le cœur rempli d'une rumeur inconnue. Oui, il devait encore y avoir là, à ce moment, une autre présence. Et c'est le récit de la rencontre de cette femme, fait par Pierre van der Meer de Walcheren, devenu bénédictin et prêtre, à 73 ans. Il raconte qu'ils sont allés voir les Blois, Léon Blois. Ils ont récité l'Angélus. Il a dit oui, il devait encore y avoir là, à ce moment, une autre présence. Il a senti la présence de Dieu là. Et il ajoute, cette visite chez les Blois a immédiatement produit en nous un changement. Ils vont se convertir, quoi. Oui, nous avons compris que quelque chose de très bon, de très grand, quelque chose d'indéfinissable, mais de très réel prenait possession de nous et qui ne devait recevoir son accomplissement qu'au-delà de tous les horizons, dans l'être infini de Dieu. Sans la moindre restriction, et de notre plein gré, avec une confiance et un abandon total, Christine, Pieterke et moi, nous sommes donc entrés dans la Sainte Église catholique. Oui, nous sommes devenus catholiques, en tenant les mains de Léon et de Jeanne Blois. Ce fut le miracle du baptême. Nous nous contemplons ainsi que des hommes nouveaux. Et Pieterke est merveilleusement satisfait et joyeux. C'est remarquable combien nous nous sentons libres tout à coup. Parfaitement libres. Nous ne possédons rien. Or, voici que tout à coup, tout nous est donné. Une nouvelle terre, un bonheur nouveau et la vie éternelle. À présent, nous avons chaque matin Dieu lui-même à la messe. Christine s'est émue dans ce climat pendant toute sa longue vie, comme dans un paradis, avec simplicité, pleine conscience et action de grâce. Elle disait, avant notre conversion, le réel de notre existence, c'était nous deux et notre garçon, nos amis, en communion avec l'humanité entière. Cette réalité-là était pour moi, dans tout son déroulement, plus belle et plus riche que tout ce que j'avais pu rêver et désirer. Et tu sais, Pierre, si mon rêve et mon désir étaient vastes et montaient haut, et à présent que Dieu nous a pris tous les trois et nous a comblés de ses grâces, plus rien n'existe qui puisse éteindre la lumière, même s'il ne faisait nuit en nous et autour de nous. Écoutez bien ceci de la bouche de Christine van der Meer. La réalité vécue en Dieu est plus belle que tous les rêves. Elle passe toute imagination. Je répète, tellement c'est beau. Hein? La réalité vécue en Dieu est plus belle que tous les rêves. Elle passe toute imagination. Alors, dans son livre intitulé « Rencontres », Pierre van der Meer continue son récit en disant « Mais même le jour de notre baptême, nous ne savions pas, nous ne pouvions pas soupçonner que la vie dans la foi, la vie avec Dieu et avec les hommes, la vie au milieu de sa création serait si inépuisablement belle et bonne, si violente et si intime, simple jusqu'à la nudité, si capable de tout embraser et de tout embrasser. Un grand courant d'amour. Cela, nous l'avons éprouvé d'année en année, durant les jours innombrables de notre existence commune. Elle avait retrouvé ce que, jeune fille, elle avait rejeté et perdu, et je crois qu'à tout ceci, elle n'a pas pu contribuer. Le fait qu'elle vivait d'un grand amour humain, et que le premier enfant de cet amour fut Peterke, qui, un jour en Italie, demanda « Pourquoi ne nous agenouillons-nous pas pour prier ?» Ce n'est que maintenant, depuis que tous les deux sont partis dans le silence de Dieu, son garçon est mort à 30 ans, moine, et sa femme venait de mourir, et ce n'est que maintenant que je me rends compte de leur vraie stature, de leur être véritable, que je comprends tout leur comportement, toutes les manifestations de leur existence comme les manifestations d'un seul tout, que je retrouve Christine tout entière dans son gracieux visage. La distance du temps est inexistante, tout est simultané en Dieu, et je revois notre premier enfant, le père Peterke, bénédictin, mort à 30 ans. Depuis son baptême, à l'âge de 7 ans, il avait tout simplement, si j'ai pu m'exprimer ainsi, accompagné notre Seigneur qui l'avait pris par la main. Enfant, il était hypersensible, toujours prêt à pleurer, pour le moindre motif et de façon inconsolable. Puis, il était devenu un garçon exubérant, joyeux, sensible, folâtre, plein de fantaisie et ouvert au beau. Le baptême l'avait transformé. Son cœur était embrasé d'amour. Il vivait avec notre Seigneur comme auprès d'un ami, intimement et simplement, dans une confiance profonde et filiale. La vie monastique était pour lui un enrichissement de la vie elle-même, et parce qu'il aimait Dieu de tout son cœur, il aimait ses confrères et les hommes à travers son amour de Dieu. Il vivait dans la joie de sa vie religieuse, dont il disait que c'était une vie paradisiaque, comme je le comprends, et qu'il l'était de fait pour lui. « Il n'y a qu'une occupation qui soit digne d'intérêt, disait-il, aimer. » C'est ainsi qu'il mourut, prématurément, à l'âge de 30 ans, en toute simplicité et en toute obédience à son père abbé, en tout abandon à Dieu, qu'il avait glorifié par sa vie de moine. Son cœur disait au moment de mourir, « Ce n'est pas moi qui aime, je suis aimé. » Notre enfant nous a conduits, Christine et moi, vers Dieu par la simplicité lumineuse de son amour. J'occupe à présent sa place dans le cœur des moines. Et je serai enterré, Christine, non loin de ton premier fils, dans l'attente du paradis. Humainement parlant, c'est l'amour de ma femme qui m'a mené là où Dieu me voulait. Son amour, Christine était amour, je ne puis m'exprimer autrement. Aucune sentimentalité ni mollesse doucereuse dans notre amour. Non, son amour était fervent d'une passion riche et paisible. Et 15 jours avant sa mort, alors que je me trouvais en Belgique pour y faire quelques conférences, elle m'écrivait « Je t'embrasse avec tout mon grand amour qui ne fait que croître depuis 52 ans que je te connais. Il est inépuisable, car la source en est Dieu. En 1926, à la Noël, j'étais à la Val-Sainte chez les Chartreux en Belgique. En Suisse, pardon. Elle et notre fille Anne-Marie étaient à Osterhout, monastère bénédictin hollandais, n'est-ce pas, auprès de Pieterke, qui était moine à cet endroit. Dans une lettre, Christine me dit « Quel bonheur extraordinaire de se savoir unis comme nous le sommes. Non pas comme l'entendent l'étroitesse, la mesquinerie et l'obtuse compréhension du monde, mais en profondeur, dans la source du cœur de Jésus, dans l'amour de toi et de nos enfants. Aurais-je jamais pu penser qu'un tel bonheur fût possible sur terre? Oh, rendons grâce à Dieu pour cet insigne privilège. » Elle avait le don de jouir de tout, dit Pierre Van der Meer, de goûter la joie que contient tout ce que Dieu donne, les fleurs, le soleil, le silence, l'été, le printemps, la beauté de la nature, la poésie et l'art, les amis, les autres. Je voudrais évoquer son pur sourire et sa gravité émouvante. Elle était d'une grande bonté. Auprès d'elle, il fallait bien qu'on soit bon, pur, honnête et sincère. Elle était si vraiment humaine, et depuis la grâce de notre entrée dans l'Église, elle vivait dans le feu obscur de la foi. Et cette vie, elle l'a transmise à ses enfants. Et écoutez bien ceci, hein. Une mère, Christine Van der Meer, qui crie à sa fille, Anne-Marie, bénédictine depuis 4 ans. Famille de bénédictins, le père et les 2 enfants. Imaginez. Voici donc ce qu'elle écrit en 1935 à sa fille, qui devait encore faire sa profession solennelle. Il est vrai que chacun, ma fille, doit faire personnellement l'expérience de ces choses. Je sens par où tu as passé, ma petite fille chérie. Mais n'en faisons surtout pas un drame, bien que je sache ce que cela signifie. C'est un monde incommensurable d'épreuves, de doutes, de certitudes, d'affolement devant la vie, avant d'atteindre cette calme sérénité où l'âme, en adorant, accepte tout ce que Dieu lui envoie. Il s'agit de vouloir. Il s'agit de vouloir et de ne pas se laisser prendre par une petite vie facile, à l'abri des soucis et des difficultés. Jésus demande à ses épouses la force et l'héroïsme dans la vie humble et cachée de chaque jour, à laquelle l'univers entier participe quand l'âme est consciente de son néant et de sa misère. Alors, il n'y a pas d'obstacle à la grâce. L'abîme divin est attiré par l'abîme du néant de la créature. Et à ce moment-là, tout est possible. Car c'est sa force, alors, qui agit en nous. Et Christine Van der Meer ajoute en écrivant à sa fille, « Combien de fois me suis-je trouvé bouleversé devant la cruauté de l'existence, devant l'injustice rencontrée partout, et notre impuissance face à la dureté des cœurs, à l'indifférence, au mépris devant les outrages que l'on fait au Dieu de toute bonté. La stupéfaction aussi devant certaines choses que Dieu permet. » Et plus loin, Christine Van der Meer écrit, « C'est en aimant, ma fille, en travaillant à devenir des saints que nous sommes le plus utiles à Dieu et à nos semblables, car nous ne sommes pas seuls. Nous portons en nous toute la création et rien de ce qui arrive ne peut nous laisser indifférents. » La véritable épouse du Christ, dont le cœur est un foyer d'amour, rachète des âmes et donne des enfants à Dieu, et cette femme cloîtrée réalise peut-être de la manière la plus parfaite l'idéal de l'existence. Et celle qui écrivait à sa fille ce que je viens de citer, écrit Van der Meer de Valkeren, en le puisant dans sa propre puissante expérience spirituelle, faisait, saviez-vous, des gâteaux délicieux? Sa cuisine était réputée chez tous ses amis? Car tout cela, elle le faisait avec amour et un don d'imagination dont la gaieté n'était jamais absente. Car Christine avait une âme d'artiste. Christine n'avait rien d'une dame d'importance. Je ne veux nullement fabriquer l'image d'une sainte. Je vous raconte simplement sa vraie, sa riche personnalité humaine. Ne pense pas, écrit-elle à sa fille, que je passe mon temps à lire au lit Dickens. Je dis l'office, mon chapelet, je lis la Divine Comédie, je lis Thérèse d'Avila, puis les revues qui entrent à profusion ici. En plus, il y a la correspondance, et pour me distraire, bien, je lis Dickens, qui me fait rire inlassablement avec ses moqueries contre la société officielle, la bourgeoisie et la noblesse. Il est si humain. Puis Pierre van der Meer ajoute, « Pendant les années de guerre et après, lorsque j'ai dû m'absenter beaucoup pour faire des conférences en Belgique et en Hollande, c'était pour elle un grand sacrifice de ne pas pouvoir m'accompagner partout. Elle me suivait par la pensée et la prière. » En août 1953, l'année qui précède sa mort, elle écrit à sa fille, « Il fait si merveilleusement beau dans ma solitude au jardin, sous la tente, en plein soleil, au milieu de milliers de fleurs recueillies et qui boivent la lumière comme une âme, la grâce de Dieu. Comment n'être pas transporté en Dieu dans un tel milieu? Pendant les dernières années de sa vie, elle était encore remplie d'amour et de tous ses chers souvenirs, bien qu'elle fût toujours tournée vers l'avenir. » En décembre 1953, le mois où Dieu va venir la chercher. Le 22 novembre, elle avait écrit à sa fille, « J'ai tant de choses à te dire, je suis si rempli et si vide en même temps. Je vis dans la foi pure, dans une vraie plénitude de paix et de bonheur qui nous fait jouir de chacun des instants. Papa et moi, nous disons le Fils ensemble, dans la joie et conscients de ce que cette prière représente et signifie. » À certains moments, je me sens vraiment agonisante. Je n'en peux plus, mais je lutte. Et je réagis, alors, je me remets à la besogne très lentement, bien sûr, et aidé par papa. Il n'a jamais eu plus fine cuisine que maintenant. Quelle femme humaine, et quelle sainte à la fois. La dernière nuit, en veillant Christine, je me suis mis à écrire « Nuit du 25 au 26 décembre 1953. Il est minuit. Je suis assis à côté de Christine, tout près d'elle, tout contre le divan où elle respire paisiblement, comme si elle dormait. C'est bien en 1953 qu'elle est morte et non en 1954. Lui, il entre chez les bénédictins en 1954, deux semaines après. » Pierre van der Meer continue, « Je songe à l'incompréhensible réalité que Christine, ma femme, ma bien-aimée, est mourante, et petit à petit s'éloigne de moi. Ce midi, le père Hans et le père François sont venus l'administrer. » Il a reçu le sacrement des malades, quoi, comme on dit aujourd'hui. Après l'administration de ce sacrement, elle a reçu et vécu vraiment en pleine lucidité, disant elle-même les réponses, elle a fermé les yeux. Elle ne les a plus ouverts. Son regard s'est tourné vers l'intérieur. Je regarde son cher visage. Je vois notre vie, Christine. Toi et les enfants, toutes ces années, ces jours et ces nuits innombrables. Et tout, tout cela, qui nous fut donné sans interruption, en fait de bonheur et d'amère souffrance. Et voici qu'elle s'en va, seule. Mais Dieu me semble si loin. Après les complis, j'ai récité les prières si émouvantes des mourants. Non, Dieu est bien loin, mais il est bien près de moi. Mais je ne le vois pas. Je ne vois que Christine, je lui caresse le front et les cheveux. Je dis son nom. Sa respiration est rapide et calme. Elle ne me comprend plus. Elle ne me voit plus. Elle ne parle plus. Je ne puis plus l'atteindre. Elle doit être maintenant tout près de la vie éternelle, cette énorme énigme pour l'homme, cette certitude indémontrable. Pourquoi suis-je obligé de rester seul en arrière? Oh, je ne vaux rien sans ma Christine. Il est 2 heures du matin, je m'agenouille près de Christine, je tiens ses mains dans les miennes, je prie, je parle à Dieu, je murmure le Magnificat. Christine respire de plus en plus profondément, et voici que tout à coup le mystère de son départ devient adorable. 26 décembre, à midi, ma bien-aimée est morte. Oui, elle est morte. Samedi matin, second jour de Noël, en la fête de Saint-Étienne. Elle est morte à 5h20, tranquillement, paisiblement, comme un homme fatigué, très fatigué, qui s'endort. Je vis, je demeure en vie dans la réalité invraisemblable. Durant cette longue nuit, tout près d'elle, j'ai touché le fond de l'existence. Le monde est vide et abandonné maintenant que Christine est partie. Je ne puis la retrouver que dans la profondeur de Dieu. C'est là, par conséquent, que je dois établir ma demeure. Après cela, tout a marché très simplement. Tout comme Christine s'en était retournée chez elle, eh bien, je suis allé à l'abbaye de Saint-Paul d'Osterhout, en Hollande. Tout allait de soi, et tout se passa tranquillement, dans une paix lumineuse. Le 7 janvier 1954, soit 2 semaines après son décès, je me trouvais, il a 73 ans, je me trouvais pour les vêpres dans le cœur des moines. Dieu m'octroya une nouvelle vie. Les années se sont écoulées. Le rêve de Christine d'avoir non seulement un fils prêtre, mais encore son propre mari, s'est réalisé. Elle se tient comme nous au cœur, à toutes les heures de le Fils divin, j'en suis sûr. Elle est présente près de nous, invisible. Mais en toute réalité, lorsque pendant l'œuvre de Dieu et la grande messe conventuelle, la proclamation de la vérité se fait, et que les moines et les moniales chantent pour le monde le chant de la vérité et de l'amour de Dieu. Depuis que je vis dans le christianisme cette réalité humano-divine, je vois sans cesse la première chrétienne. La femme se trouve à l'origine de chaque grand événement. Je vois la toute sainte, la Panagia, comme l'appelaient les Grecs, Notre-Dame, notre mère Marie. C'est dans un hymne que je voudrais célébrer cet être extraordinaire, créature comme nous et qui a entonné le Magnificat à l'un des sommets de son attente. C'est de sa bouche que nous avons tout appris dans ce cantique triomphal. Et cette prière a été pour nous, pendant toute notre vie, la parole qui libère, la solution, la purification, la réponse à toute joie, à toute peine. Peine que nous avons pu accueillir ainsi que dans la joie de Dieu. Magnificat. Tout ce que j'écris et raconte, je le fais pour faire vivre dans nos cœurs Dieu et son amour. Il s'agit à présent, à l'époque où nous vivons, d'être vraiment totalement ce que nous sommes. La médiocrité doit être plus que jamais bannie. Il est absolument nécessaire de montrer aux hommes, avec la grâce de Dieu et sa force en nous, par notre manière d'être et notre manière d'agir, que le christianisme est vrai, qu'il est une splendeur de vie, parce qu'il n'est rien d'autre qu'amour. À la fin de son beau livre « Dieu et les hommes », c'est un ouvrage de 700 pages, qui a été suivi par « La terre et le royaume », 370 pages. Donc, à la fin de « Dieu et les hommes », il écrit ceci. « Je ne suis plus à moi, mais à Dieu. » C'est Pierre van der Meer de Valkeren qui écrit. « Je ne suis plus à moi, mais à Dieu. » Avec lui et par lui, j'appartiens à tous les hommes, dans la mesure où je m'appartiendrai moins à moi-même et davantage à Dieu, je serai aussi mieux moi-même, plus pleinement, plus intégralement. Je veux être ce que Dieu veut que je sois. Je ne puis saisir tout à fait ce qui s'est passé et se passe encore et dont je suis l'objet. Mais c'est bon et simple comme la lumière. Comme les dieux et tout ce qu'il fait, simple et bon. Dieu a pris possession de moi par l'amour, bien plus encore, infiniment plus que par le passé. Je n'en suis pas devenu meilleur pour autant, ni plus vertueux, bien sûr que non. Mais au fond de moi, un feu me brûle, dont la force me domine et m'envahit. Dieu pénètre jusqu'aux racines de l'être. Et dans ce tréfonds, il se reconnaît. Mon moi est absent, Dieu seul est présent dans le prêtre, et l'habite comme une demeure hospitalière. Dieu peut tout, puisqu'il trouve moyen de faire de moi un prêtre.